Alors, j'aimerais juste vous poser une question. Comment savoir que vous avez une bonne relation avec quelqu'un, une relation profonde avec quelqu'un? Et peut-être que là, dans vos têtes, il y a plusieurs petites choses qui viennent, plusieurs critères qui viennent. Peut-être, il y en a de ces critères-là, on a dit, il faut pas ni désordre et puis mouna. Pas de conflit. Pas de dispute. Et la question que j'ai envie de te poser en ce matin, est-ce que c'est un bon critère? Est-ce que c'est un bon critère? Quand la relation, elle est superficielle, on peut dire que tout va bien. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que on peut se dire très bien, bonjour, ça va? Oui, ça va. Et le travail? Ça va. Et la famille? Ça va. Et les enfants? Ça va. N'est-ce pas? Et puis on peut continuer longtemps comme ça, et puis tout le monde va bien, et on s'arrête là, et puis nous capati. Mais quand la relation devient profonde, les choses changent un petit peu quand même. Normalement, ou pédi mounan, ça qui fait mal, Adam en relation qui profonde, n'est-ce pas? On peut lui dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu as réagi comme cela. On peut lui dire, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans une relation de deux personnes, comment dire, il y a au moins un égoïste dedans. Sinon deux. N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans, comment dire, nous sommes dans une réalité, c'est la réalité du péché. N'est-ce pas? Et résultat, s'il y a au moins un égoïste, sinon deux, eh bien, il faut toujours passer par le pardon pour que la relation puisse s'approfondir. Et dans le pardon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura une forme de connexion qui va se faire pour pouvoir aller plus loin dans la relation. Et vous savez que bien gérer au sein d'un couple des conflits peuvent être une occasion extraordinaire de renforcer l'intimité. Bien gérer des conflits peuvent être une occasion de gérer l'intimité. Avec de l'honnêteté, c'est-à-dire pouvoir dire réellement ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ne pas simplement se contenter des reproches avec des tu qui partent dans tous les sens, mais pouvoir dire ce que l'on ressent au moment donné, avec de l'honnêteté et aussi avec de la compassion, c'est-à-dire d'être attentif à l'autre. Et là, la relation peut s'approfondir. La question que j'ai envie de vous poser ce matin, et avec Dieu, comment ça se passe? Est-ce que notre relation avec Dieu est suffisamment profonde avec lui? Ou est-ce qu'elle reste superficielle? Dans la relation avec Dieu, et on va aussi dire qu'il y a deux personnes, mais il y a un pécheur, et c'est nous. Et lui, il est saint, il est parfait. Donc c'est une relation qui est déséquilibrée. Et donc il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous supposons. Il y a des choses que nous interprétons mal dans cette relation. Et nous posons à Dieu des questions. Et la question, c'est est-ce que nous lui faisons suffisamment confiance? Et est-ce que nous pouvons lui exprimer réellement toutes nos peurs, toutes nos craintes? La question pour nous en ce matin, quelle est ta relation avec Dieu? Ta relation avec Dieu est-elle superficielle ou est-elle profonde? Et c'est exactement ce qui rend le livre d'Habacuc, puisque vous avez vu la référence, j'espère que c'est suffisamment gros, oui. C'est exactement ce qui rend le livre d'Habacuc intéressant. Qui a déjà lu Habacuc ici? Juste trois petits chapitres. Ce n'est pas forcément une lecture que l'on fait tous les jours, mais on l'a déjà lu au moins une seule fois. Situé, comment dire, dans les petits prophètes, donc juste avant le Nouveau Testament, entre Nahum et Sophonie. Quel type de relation Habacuc avait avec Dieu? Au chapitre 1, et là je vous fais une petite synthèse rapide, au chapitre 1, Habacuc va voir la violence. Et il va voir aussi l'injustice, et il va voir aussi tout le désordre, comment dire, qu'il y a dans le peuple de Dieu. Il voit à la fois que comment dire, dans le peuple, il y a la violence, il y a l'injustice, et en même temps, autour de ce peuple, il y a des peuples qui sont là et qui veulent, comme qui dirait, envahir le peuple d'Israël. Et il va voir aussi les désordres du peuple, le péché, l'idolâtrie qu'il y a dans le peuple. Il y avait les pires des péchés. Et il interpelle Dieu. Et il pose une question à Dieu. Et peut-être que tu as déjà posé cette question au Seigneur. Jusqu'à... Tu as déjà posé cette question au Seigneur. Ah oui. Jusqu'à quand? En fait, il n'a pas allé, bon Dieu, franchement. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui répond. Mais probablement, c'est que réponse bon Dieu plus raide qui question. Dieu annonce qu'il va utiliser Babylone, un peuple encore plus violent, pour juger son peuple. Et là, c'est tout à la question des prophètes pré-exiliques, c'est-à-dire juste avant l'exil, où Dieu est juste Judas. Donc vous savez que Israël, le royaume du Nord, a été dévasté. Et puis il reste là Judas qui est censé être la fidèle. Mais elle aussi, elle sera dévastée. Parce que Dieu veut juger son peuple. Et ça, c'est un problème pour Habacuc qui ne comprend pas ça. Mais Seigneur, fais grâce. Et Habacuc aurait pu se taire. Il aurait pu faire semblant d'avoir compris devant la réponse d'Habacuc, de Dieu. Il aurait pu rester superficiel devant ce qu'il ne comprend pas. Il aurait pu dire « Amen Seigneur, Alléluia ». Mais non, il n'a pas fait ça. Il revient avec Dieu, avec ses questions, et il discute, et il cherche, et il attend. Il veut dépasser la superficialité. Chapitre 1. Et au chapitre 2, Dieu va lui donner une parole mémorable. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Pour Habacuc, ça signifie tout simplement, même quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, continue à lui faire confiance, demeure fidèle et tu vivras. Habacuc, chapitre 2, verset 4. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, bien des années après, va reprendre cette même parole pour parler du salut en Jésus-Christ. Vous le savez? Dans Romains chapitre 1, verset 17. Et il va plus loin. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que dans la nouvelle alliance, la foi... Parce que c'est ce dont il s'agit ici. La foi va devenir le point de départ d'une nouvelle vie. La foi va devenir le point de départ d'une nouvelle vie et va déboucher sur la justification. Par la foi, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Juste parce que nous choisissons de croire en Dieu et de croire en son sacrifice, il nous accorde la reconnexion avec lui. Non par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. La foi, chers frères et sœurs. Et puis on arrive au chapitre 3. Là, rien n'a changé pour Habacuc. Mais Habacuc, il semblerait bien qu'il ait changé lui-même. Habacuc va passer de la plainte à l'attente patiente, au fait même d'être comme un veilleur, on le voit au début du chapitre 2. Du trouble à une joie profondément enracinée en Dieu, on va le voir dans un instant. En fait, Habacuc nous montre quelque chose d'essentiel ici. C'est les lavia qu'a soukwe ou bien fort ou qu'a descendre en profondeur, en relation. Et puis, bon Dieu, est-ce que vous êtes qu'à suivre moi? C'est les lavia qu'a soukwe ou bien fort ou qu'a ouais, si relation et puis bon Dieu profond. Alors, ta relation avec Dieu est-elle superficielle ou profonde en ce matin? Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Habacuc, chapitre 3, versets 16 à 19, que vous avez déjà ouvert. Amen. Zot ni bibzot. Je lis. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument et mes os chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Verset 17. car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront et les pâturages, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, verset 18, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ô chef des chantres, avec instrument à cordes. Seigneur, éclaire-nous par ta parole en ce matin et veuille nous toucher là où nous avons besoin ce matin et veuille nous éclairer par ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Venons-en au chapitre 1, au verset 16. On peut le relire. J'ai entendu, mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Chers amis, chers frères et sœurs, ce verset a de quoi, n'est-ce pas, nous déranger. Parce que bagaille là, chaud, là. Alors qu'Habacuc était en attente de la solution de Dieu, il priait, il était en attente et il cherchait bon Dieu et il paniquait ce soulagement. Au contraire, Habacuc ici va vivre un bouleversement et le passage, le verset que nous venons de lire nous parle de ce bouleversement. Habacuc est secoué dans son corps même, boyoy touché, bouchli touché, zoy touché. Il est secoué dans ses émotions. Après tout ça, il a passé, il est là en prière et il est dans le silence et il attend que Dieu puisse lui parler. Après avoir dit dans Habacuc chapitre 1 verset 2, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. » Après avoir médité sur Dieu, on le voit au verset 12 et au verset 13 d'Habacuc chapitre 1, « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas, ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. » Ô rocher, ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Bref, il médite sur Dieu. À la fois, il est en silence. À la fois, il écoute Dieu. Et il va même jusqu'à, contempler qui Dieu est au chapitre 3, le verset 3. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est un homme en souffrance, mais qui choisit de rester connecté à Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier, de t'approcher de Dieu? Pas sous capassant, pas ce qui est difficile. De sortir de la prière peut-être avec un cœur lourd, une sorte de mal-être et tu sais que Dieu t'a écouté, mais en même temps, il y a comme une angoisse, il y a comme un poids qui est là. Et ce qui est bizarre, ici, là, pour Habacuc, c'est que Habacuc n'est pas troublé parce qu'il est loin de Dieu. Il est troublé justement parce qu'il s'est approché de Dieu. Comment tu peux comprendre ça? En fait, c'est une prière profonde, c'est une respiration de l'homme sous forme de psaume. En fait, c'est un psaume que l'on voit ici dans Habacuc chapitre 3. Mais dans ce psaume, il est parlé tout simplement d'une rencontre directe avec le Seigneur, une rencontre qui laisse visiblement des traces. J'aimerais te dire que tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester intact. Habacuc est un homme qui tremble ici, qui a tremblé qu'en fait, il est en train de perdre ses nerfs et il n'arrive plus à tenir jusqu'au bout. Et on peut penser à Jésus. Jésus lui-même qui était sur la croix. Hébreux chapitre 5, le verset 7 nous dit « Au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications. » Des grands cris et des larmes. Jésus lui-même. À celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Jésus, lui aussi, a tremblé devant la croix. Et il a tremblé non pas parce qu'il n'avait pas de foi, il a tremblé parce qu'il a choisi justement, par la foi, d'obéir parfaitement à Dieu. Et la question qu'on peut se poser, mais c'est Habacuc lui-même, pourquoi il tremble? Parce que la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée à son intelligence, à son mental. Elle est descendue en profondeur. Elle a touché ses entrailles. Elle a pénétré son cœur. Elle est descendue là où sont ses peurs, ses attentes et ses peurs, ses désirs profonds. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et jointure et elle juge sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Habacuc est donc en tension ici et avait mal à la tête avec au moins deux grandes questions. Deux grandes questions que tu peux vivre et toi-même expérimenter. Pouti, ça qui est bon qu'a souffert, et pouti, ça qui est méchant qu'a prospéré. Puisque nous-mêmes, pas jamais méchants, hein? N'est-ce pas? Pouti, ça qui est bon qu'a souffert, et pouti, ça qui est méchant qu'a prospéré. La première question. Et deuxième question, mais à quel moment, Seigneur, tu vas prendre soin de ton peuple pour qu'il revienne à toi? À quel moment tu vas faire quelque chose, puisque mon cas prend en mauvaise direction. Et puis en plus, les méchants veulent leur faire du mal. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et en écoutant Dieu de façon profonde, Habacuc va découvrir des vérités sur la souveraineté de Dieu. Une vérité très simple. Quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, Dieu fait tout pour sa propre gloire. Amen. Et tu peux dire à celui qui est à côté de toi la même chose. Quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, Dieu fait tout pour sa propre gloire. Amen. Et c'est pourquoi, face à ce Dieu-là, je le répète, nous ne pouvons rester intacts. Il y a comme une tension dans ce que nous vivons entre ce que tu veux et que tu souhaites, et la volonté souveraine de Dieu pour ta vie. Il y a comme une tension qui est là. Et c'est pourquoi une vraie rencontre avec Dieu peut troubler, peut déstabiliser. Elle peut faire même tomber nos sécurités. Parce que dans cette tension-là, le Seigneur veut fait ouvrir un nouveau chemin pour toi. J'aimerais prendre l'exemple du sport. Qui sont les sportifs ici? Ah, il y a une sportive au moins. Hein? Ah! Au moins une. Mais qui fait du sport un peu de temps en temps? C'est nécessaire. Hein? C'est nécessaire. Y a un principe simple dans le sport. Un muscle ne grandit pas dans le confort. Un muscle ne grandit pas dans le confort. Un muscle va se développer sous la tension. Et quand tu fais de la musculation ou encore un autre sport, le muscle il va être soumis à une charge. Et pendant l'effort, il va se produire ce qu'on appelle des micro-déchirures. Et je dis bien micro, hein, parce que si c'est une vraie déchirure, c'est compliqué. OK? Mais des micro-déchirures. Et peut-être que ça va brûler. Et peut-être que ça va fatiguer. Et peut-être que ce n'est pas agréable. Mais les sportifs qui sont dans la salle savent bien qu'après, il y aura la position, n'est-ce pas, du repos, et que le muscle lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reconstruire, et quand il va se reconstruire, il va se reconstruire plus fort. D'où l'importance de toujours faire travailler ses muscles pour qu'ils ne puissent pas s'atrophier. Donc, vous voyez, il y a deux dimensions dans la prédication. Il y a la dimension spirituelle et aussi physique. Hein? D'accord? Il faut se mettre en mouvement, n'est-ce pas? Et je le dis aussi pour moi. Autrement dit, il faut pouvoir détruire des fibres musculaires pour les renforcer. Et ça semble bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu a créé. Il faut fragiliser le muscle pour le transformer. Et la foi fonctionne de la même manière. La foi fonctionne de la même manière. Une foi qui n'est jamais bousculée va rester fragile. Une foi qui ne se remet jamais en question ne grandit pas. Mais une foi qui est mise sous tension, éprouvée, travaillée, va devenir solide. Et la Bible dit très bien dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. » Donc Dieu permet ce genre de situation pour que le muscle spirituel puisse grandir. Et ici, précisément, Habacuc est sous tension. Dieu est en train de travailler sa foi en profondeur. Ce qui ressemble à une fragilisation est en fait une transformation pour lui. Et peut-être que dans ton combat, tu te sens fragile. Une angoisse qui alourdit ton cœur. peut-être une fatigue mentale qui ne part pas. Peut-être à la fin de tes vacances, tu sens qu'il y a quelque chose qui va venir là et tu ne sais pas comment aborder cela. Peut-être ce sont des pensées qui tournent en boucle, peut-être la nuit et tu n'arrives pas à dormir. Peut-être c'est une peur tout simplement de l'avenir. Mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et tu pries, ou plutôt tu essayes de prier. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu pries et tu te demandes, mais est-ce que Dieu m'entend encore? Écoute bien, tu peux aimer Dieu et être angoissé. Tu peux croire et être émotionnellement épuisé. Tu peux prier sans ressentir immédiatement la paix. C'est une réalité. J'aimerais te dire que quand ça ne va pas intérieurement, ça ne veut pas dire que tu es en train de reculer spirituellement. Parfois, comme un muscle en tension, ta foi est travaillée en profondeur dans ces temps-là. Et Jésus a passé ce chemin avant toi. On peut penser à Gethsémané. Il commença à éprouver, la Bible dit, de la tristesse et de l'angoisse. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Dans Matthieu chapitre 26, versets 37 à 38. Jésus lui-même a connu l'angoisse. Et il n'est pas resté à Gethsémané. Il est allé à la croix et il est ressuscité victorieux. Matthieu chapitre 26. Alors, ce que tu vis n'est pas une fin, mais il s'agit pour toi de quitter la superficialité pour entrer dans une relation profonde avec Dieu. Et j'aimerais te dire qu'il faut arrêter de croire que la maturité chrétienne, c'est une vie cool, une vie bien rangée et une vie sans secousse. Une vie où tu sens que voilà, tout va qu'à couler tranquillement. Délai la vie à Kasukwe nous bien fort. Peut-être au travail, peut-être dans la famille, peut-être les relations, peut-être les imprévus, des choses que tu n'as pas prévues. Et chaque secousse peut nous apprendre à nous tourner davantage vers notre Père et à lui faire confiance. Alors j'aimerais te dire, ne cherche pas une vie chrétienne sans secousse. Mais un conseil, cherche une relation avec Dieu assez profonde pour tenir quand les secousses vont arriver. Parce qu'elles vont venir. Et d'ailleurs, au verset 17, le verset juste après, ce n'est pas qu'une question intérieure. Parce qu'autour d'Habacuc, il y a des choses qui bougent. On passe de l'intérieur au verset 16 ou à l'extérieur au verset 17. Lisons verset 17 à nouveau. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne donnera rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne produiront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de la bergerie, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ici, j'ai envie de dire qu'on a le verset le plus réaliste de toute la Bible. Ikadou bagaïla konyea. Rien pour enjoliver. Habacuc ne dit pas papé toute bagaïla qui est rangée, il dit ouais, attention, tout est en train de s'effondrer. Chaque image parle de quelque chose qui est perdu. On parle de figuier, n'est-ce pas? On parle de vigne, on parle aussi d'olivier, on parle de brebis, on parle de bœuf. Et en fait, ces images tout simplement de la nature et plus précisément de l'agriculture. Et chacune de ces images, quand on fait des relations avec d'autres textes de la parole de Dieu, eh bien, il y a un sens dans le figuier, dans la vigne et dans l'olivier. Voilà. Le figuier, c'est la paix, la tranquillité, la sécurité, peut-être la sécurité d'une famille, la stabilité. La vigne, c'est la joie partagée, c'est la joie relationnelle, la connexion avec Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction en partage. Et l'olivier, c'est la puissance de l'esprit, c'est la fidélité qui dure à toujours, c'est pouvoir regarder l'avenir avec foi. Paix, joie et puissance, stabilité, bénédiction et avenir. Et ici, il est parlé aussi non seulement de figuier, de vigne, d'olivier, mais aussi de champs, de troupeaux, de brebis, de bœufs. Et ça, ce sont les ressources naturelles, nécessaires pour le quotidien, pour la sécurité, pour la survie. Autrement dit, ici, comment dire, Habacuc est en train de dire que tout ça est en train de partir à volo. Autrement dit, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de garantie. Tout crabe là, mort en baril là. Et Habacuc décrit ici un vide total. C'est comme qu'il irait en train de tomber dans un vide. Et la Bible dit de Jésus dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous. » Jésus lui-même a connu le vide et dans lequel il est entré d'ailleurs volontairement pour notre bien. Il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce n'est pas une surprise pour Habacuc comme pour Jésus, ce n'est pas un accident, il le savait déjà, il le sentait venir, mais il prend acte, il est en train de dire, ok, toute bagaille là, et peut-être que parfois dans ta vie, tu vois qu'il y a des choses qui sont en train de partir, que tu ne peux pas tenir, que tu aurais tellement aimé tenir, mais à un moment donné, quand on est dans cette relation profonde avec les Seigneurs, on dit, ok Seigneur, je lâche. Et ici, Habacuc, il avait compris que Dieu l'avait déjà annoncé et il choisit. Il était déjà passé par toutes sortes d'émotions en haut et en bas et il a compris qu'il fallait lâcher. Et après sa prière, après sa méditation, tout ça, Habacuc chapitre 1, Habacuc chapitre 2, sur l'œuvre passée de Dieu. Et tout ça, le prophète comprend que le temps sera long. Ok, Seigneur. Le temps sera long sans voir Dieu agir. Le temps sera long où Dieu va sembler silencieux. Le temps sera long où ta foi n'est plus nourrie par ce que tu vois, mais sera simplement nourrie par ce que tu crois. Amen. Le juste vivra par sa foi. Habacuc chapitre 2, le verset 4. Habacuc prend acte qu'il y a comme une nuit spirituelle qui est en train de s'installer et il accepte de voir la réalité en face. Et j'aimerais te dire qu'avoir la foi et descendre en profondeur dans la relation avec Dieu, ce n'est pas le refus de voir le réel. C'est le courage de regarder la réalité, mais sans lâcher le Seigneur. Amen. Et j'aimerais encourager quelqu'un ici qui peut-être pas traverse cette nuit spirituelle et là où l'ennemi est en train de l'attaquer et lui dire, mais tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas ce qu'il faudrait être. Et puis avec toutes sortes de pensées et tu traverses cette nuit spirituelle. Mais j'aimerais te dire que comme le muscle avec les micro-déchirures de la vie, par la grâce de Dieu, le Seigneur va te donner le repos afin que ton muscle puisse gonfler dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une image très forte dans la nature. On n'en a pas ici, mais tout le monde connaît l'aigle. Quand un aigle veut que son petit aiglon passe à un autre niveau, l'aigle ne va pas lui prêcher comme je vous fais ce matin. L'aigle ne va pas lui faire de longs discours. L'aigle ne va pas lui donner toute la théorie du vol avec les principes aérodynamiques de la portance, n'est-ce pas, un objet peut s'envoler dans le ciel. L'aigle ne va pas détailler tout cela. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par remuer le nid. Ensuite, l'aigle va enlever le duvet dans le nid. Ensuite, l'aigle va mettre des petites branches un peu pointues dans le nid. C'est désagréable, c'est irritant. Et l'aiglon essaye de se poser, mais ça pique. Et il change de place, et ça pique encore. Jusqu'au moment où rester dans le nid devient pénible de tenter, plus que de tenter de voler. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter tout simplement dans le vide. Pas parce qu'il se sent prêt, mais parce qu'il ne peut plus rester comme avant. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à une autre étape. Et l'aigle sait que quelque chose que l'aiglon lui-même, il ignore encore, c'est que l'aiglon ne prendra jamais son envol tant que le nid restera confortable. Et j'aimerais te dire qu'il en est de même pour la foi. Tu n'iras jamais en profondeur tant que tu resteras confortable. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression de tomber un peu dans le vide, n'est-ce pas? Peut-être que tu t'attendais à que ton contrat soit renouvelé et puis il n'a pas été renouvelé. Peut-être que tu es en train de faire face à une séparation, quelqu'un qui t'était cher et que voilà, maintenant c'est le temps de la séparation. Peut-être qu'il y a un diagnostic médical qui tombe et tu te dis non, ça ne peut pas m'arriver. Peut-être c'est un projet que tu as travaillé et qui pourtant échoue. Peut-être c'est une porte qui se ferme sans explication et tu te dis pourquoi ? Pourquoi Seigneur ? Pourquoi tous les paramètres étaient réglés ? J'avais tout préparé, j'avais tout réfléchi, mais pourquoi ça ne marche pas ? Comme pour Habacuc, les champs sont vides, les étables sont vides. Et il y a comme qui dirait rien à quoi se raccrocher dans tout ce que tu avais pensé. Et quand nos sécurités disparaissent, nous pouvons penser naturellement, et c'est naturel en tant que croyant même que Dieu n'est pas là. Mais Habacuc découvre le contraire. Il découvre le contraire. Dieu est toujours là, même quand les champs sont vides, même quand il n'y a aucune solution visible. La foi, ce n'est pas voir clair pour avancer. Ou pas besoin, ouais, clair pour avancer. Il faut qu'on avance. Et pour avancer, il faut qu'on fasse un pas après l'autre. Peut-être en fermant les yeux parfois et en croyant que Dieu a tout dans ses mains. Amen. La foi, c'est continuer à s'accrocher à Dieu même quand tout devient flou. Des fois, nous aurions aimé avoir les lunettes les meilleures pour pouvoir voir à travers le noir, n'est-ce pas, dans le chemin de nos vies. Mais parfois, Dieu nous rend myopes pour qu'on puisse juste fermer les yeux et continuer à lui faire confiance, même l'aine ou pacahouette d'ouvant, ziez-nous. Amen. Jésus lui-même a connu le dépouillement. Il a connu le vide. Il a été rejeté. Il a été abandonné. Il a été dépouillé. Et quand tu perds quelque chose d'important, tu peux dire au Seigneur, « Seigneur, tu sais ce que c'est de perdre. » Parce que lui-même est passé avant toi. Et peut-être qu'il y a quelque chose que tu es en train de perdre là. Quelque chose qui est en train de s'éloigner de toi. Et tu te dis, « Mais Seigneur, pourquoi ?» Jésus est passé par là avant toi. Et c'est là aussi que notre relation avec Dieu s'approfondit. Une relation profonde ne se construit pas en cherchant à ressembler aux autres. Et là, c'est ça qu'on a fait. Hein? Et même on dit dans l'église là, hein? N'est-ce pas? Donc, on a tel frère, tel seil, il bien et tout. Et on pense que c'est l'objectif que Dieu nous a donné. Non, chacun a sa vision, chacun a son projet, chacun, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Même si c'est dur, même si il y a des choses qui doivent, comme qui dirait, se détacher de toi, mais tu as ton projet pour ta propre vie, le projet que Dieu a prévu pour toi. Donc ne cherche pas à ressembler aux autres. N'essaye pas de maintenir un faux équilibre où tout serait toujours sous contrôle. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Où on cherche à avoir à tout gérer, à tout maîtriser pour dire voilà, on avance. Mais une relation avec Dieu profonde va s'affiner avec le temps, mais aussi avec les épreuves, mais aussi avec les joies, mais aussi avec les blessures et aussi avec nos erreurs. Parce qu'on ne fait pas tout bien, n'est-ce pas? Et on se trompe bien des fois et le péché n'est jamais loin. Mais une relation avec Dieu va s'affiner avec tout ça. Et c'est ainsi qu'on va découvrir qui est Dieu et que son projet, est bien plus grand que nous. Parce que ce qui intéresse, c'est bien plus grand que nos petites personnes en réalité. Le projet de Dieu est plus grand que nos petites personnes, que le projet que tu as là et que qui tient à cœur et que tu vois que ça ne marche pas. Le projet de Dieu pour toi est plus grand que cela. Amen. Alors, on prend acte. Nous vivons par la foi, comme le dit Habacuc chapitre 2, le verset 4. Dans un monde qui est compliqué et dans un monde qui est rempli de péchés, nous prenons acte. Et on se rappelle que dans tous ces aléas de la vie, dans les joies et dans les peines, Dieu est présent, Dieu est souverain dans toutes ces réalités-là. Et demain, et pour l'éternité, il y a une promesse extraordinaire qui est donnée dans Habacuc chapitre 2, le verset 14. Il est dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Amen. En fait, ici, c'est un verset qui est précisément eschatologique, à savoir qui parle des temps de la fin. Une manière de dire que nous voyons nos réalités aujourd'hui et tout ce que nous vivons et avec lesquels nous avons des difficultés, mais le Seigneur nous invite à regarder plus haut et plus loin. Alléluia! Et ici, Habacuc chapitre 2, le verset 14, nous révèle la vision de Dieu pour ce monde rempli de péchés. Il n'y en est tout ça qu'est fini. La terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. Et chaque recoin sera un jour rempli à ras-bord. Et tout cela nous donne de pouvoir tenir bon et de pouvoir affronter et de pouvoir avancer. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Ne pas regarder simplement à notre petite réalité et puis continuer à se battre et puis nous cacatiler. Mais le Seigneur nous invite à regarder plus haut et plus loin aussi. Et d'ailleurs, il va ébranler nos sécurités devant des situations de vie pour nous donner une vision plus panoramique de la vie, pour que nous puissions approfondir notre relation avec lui. Amen. Amen. J'aimerais juste terminer avec cet aspect. Habacuc termine son livre et déclare de manière surprenante, et on le voit au verset 18-19, « Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, je trouverai ma joie dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. » Et on connaît bien cette conclusion puisque nous aimons la chanter. « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Il y a un mot-clé ici dans ce texte. C'est le fameux « toutefois ». Ou encore dans d'autres versions, il va être dit « mais moi ». Un mot qui change tout ici. Les circonstances n'ont pas changé. Les champs sont toujours vides. Les étables sont toujours vides. La crise est toujours là. L'avenir est toujours incertain. Mais Habacuc choisit la profondeur. Et il dit « toutefois ». Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. En fait, sa foi cesse de dépendre des circonstances. Elle devient dépendante de Dieu. Et une fois de plus, Habacuc ne nie pas la réalité. Il choisit de traverser cette réalité. Il choisit de l'affronter. Il ne fuit pas la montagne. Il choisit de traverser la montagne. Dieu ne supprime pas la montagne. Mais il peut te transformer pour pouvoir la traverser. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. La biche ne fait pas disparaître la montagne. La biche, elle va juste s'adapter. Elle va trouver les appuis et elle va monter. Elle avance avec agilité. Elle continue de grimper. Et la biche, elle, parce qu'elle a les pieds pour cela, ou les pattes pour cela, n'est-ce pas, elle va monter là où d'autres animaux ne vont pas monter. Il peut monter là d'autres animaux pas qu'à monter. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ces lieux ne sont pas sans danger. Peut-être que les lieux où tu traverses ne sont pas sans danger. Ce sont des lieux où, comment dire, tu vas prendre de la hauteur et tu devras affronter certaines choses. Mais à la fois tu vas prendre de la hauteur, à la fois tu vas prendre de la profondeur avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et remarquez bien que le choix qu'il est en train de faire ici, c'est le choix de la louange. J'aimerais juste donner un exemple que peut-être que vous connaissez. C'est l'exemple de... Voilà, là il ne fonctionne plus. C'est l'exemple de Willie Merrick. Est-ce que vous le connaissez? Bon, en 2014, il avait 10 ans. Donc on suppose là qu'il a déjà une bonne vingtaine d'années, n'est-ce pas? Mais il avait 10 ans. Est-ce que vous connaissez l'expérience qu'il a vécue? Personne ne connaît. J'ai vu que son histoire est sortie à nouveau il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. Mais on ne le montre pas adulte, mais toujours enfant. En fait, il était dans son jardin et il va se baisser pour ramasser une pièce de monnaie. Et puis il y a un homme qui va surgir. Et cet homme va l'attraper et il va le jeter dans une voiture. Et il patibille, quoi. Il va démarrer rapidement. En fait, Willie a été kidnappé. Et dans la voiture, la peur, elle est totale pour Willie. Et on peut supposer son angoisse. Et il est seul et est enfermé avec cet homme. Et il y a quelque chose d'étrange qui va se faire pour lui. Il va tout simplement commencer à chanter « Every Praise ». Toute louange. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui tu es, toute louange. Pendant trois heures, il a chanté comme cela. Et comment dire, le kidnappeur a commencé à l'insulter et à le crier pour le faire taire, pour le menacer. Mais l'enfant, lui, il a continué. C'est le chant de louange qu'il connaissait. Il chantait à l'église, il n'avait aucune autre solution, aucune voix, et il a continué à chanter toute louange pendant trois heures de louange. Jusqu'au moment où le ravisseur, il a craqué, il a ouvert la portière et il l'a jeté hors de la voiture et Willy était vivant. Amen. Sauvé. Willy n'a pas contrôlé la situation et Habacuc non plus n'a pas contrôlé la situation. Et toi non plus, tu ne peux pas contrôler la situation. Tu ne contrôles ni l'histoire, ni les nations, ni l'avenir. Et pourtant, comme Habacuc, tu peux dire, toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. Ça, c'est une louange qui n'est pas superficielle. Parce que, chers amis, il est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la profondeur de notre louange se révèle lorsqu'on est confronté au réel et que bagaille la chaud et qu'on va continuer à louer bon Dieu quand même. Quand la montagne est devant toi, quand le chemin est escarpé et qu'il faut utiliser les pieds que Dieu t'a donnés pour monter, l'aime en raide, quand rien ne semble changer. Et c'est là que la louange dit quelque chose de la profondeur de ta relation avec Dieu. As-tu une relation superficielle ou profonde avec le Seigneur? Tout ne va pas bien, mais Dieu reste avec toi. Et n'oublie jamais, Jésus est déjà passé par là avant toi. Une foi profonde peut regarder la réalité en face et dire avec Habacuc, je le répète, « Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. » Ce que je veux te dire simplement ce matin, c'est que le Seigneur veut te rencontrer dans le réel de ta vie. Peut-être que tu rêves d'autre chose. Tu rêves beaucoup d'autres réalités grandes et merveilleuses. Mais le Seigneur, certainement, s'il t'a donné cette vision, tu vas rentrer dans le plan et dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais là, maintenant, tu peux dire « Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. » Alléluia. Tu peux choisir de l'adorer. Tu peux choisir de regarder les choses comme il choisit de les voir. Tu peux te concentrer sur lui comme Willy a choisi de se concentrer sur sa louange parce qu'il n'avait aucune voix. Il ne pouvait s'accrocher à rien du tout. Peut-être que le Seigneur est en train de te pousser simplement là vers un vide, mais sache que c'est une nouvelle étape qu'il veut ouvrir avec toi. Et dans cette nouvelle étape-là, il veut simplement que tu puisses approfondir ta relation avec lui et que tu puisses grandir et que tu puisses déployer et exprimer pleinement ce qu'il a prévu pour toi. Parce que tant que tu ne passes pas par cette étape-là, le muscle ne va pas grossir et tu ne vas pas pouvoir progresser. Alors arrête de rechercher le confort. Arrête de rechercher le confort, mais cherche, ose, avance, fais le pas supplémentaire avec le Seigneur. Amen. J'aimerais juste prier pour quelqu'un ici que cela concerne. Et tu peux te lever là où tu es, de ta place. Peut-être que tu passes une période de trouble et en quelque part tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Mais j'aimerais te dire que quand Dieu te trouble, il veut que tu descendes en profondeur. Quand Dieu semble absent, il veut que tu descendes en profondeur. Et quand Dieu, et quand tu es dans cette situation, il veut qu'il devienne simplement ta seule et l'unique joie de ta vie pour pouvoir reconstruire, rebâtir avec toi. Alléluia. Oh Jésus. Tu peux te lever de ta place où tu es. On va juste prier avec toi. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, tu nous vois. Tu nous vois avec nos limites. Tu nous vois avec nos réalités. Et avec toutes ces périodes de vie. Pendant les vacances, nous avons vu ensemble les différentes étapes de la vie spirituelle. Et clairement, les crises sont là pour que l'on puisse passer une étape. Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur toi. Aide-nous à utiliser la louange et l'adoration. Aide-nous, Seigneur, à simplement reconnaître que ce que tu as prévu précisément pour nous, tu as toutes les capacités pour nous faire entrer dans ton plan. Alors nous ne voulons pas paniquer. Nous ne voulons pas être inquiets. Nous ne voulons pas, Seigneur, utiliser notre intelligence pour essayer de concevoir des plans avec nos propres forces, avec nos propres capacités. Mais nous voulons simplement nous laisser saisir par le plan que tu as prévu pour nous, par ce que tu veux accomplir de façon puissante et glorieuse dans nos vies. Alléluia! Quand on a l'impression que tu nous troubles comme c'était le cas pour Habacuc, mais pourquoi tu nous troubles, Seigneur? Tu ne nous troubles pas pour nous perdre. Tu nous troubles pour que nous puissions creuser pour avoir les véritables et fortes racines en toi. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas dire « c'est fini, j'en ai assez, je tourne la page et puis il m'en finit et puis ça ». Nous voulons, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux pour moi dans cette situation? Où est-ce que tu veux que l'on aille? Où est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Aide-moi à construire et à bâtir ma vie sur toi, Seigneur. Seigneur, je veux remettre chaque frère, chaque sœur qui s'est levé, qui peut-être d'autres sont en lutte et s'interrogent. Seigneur, que tu puisses les toucher de façon particulière en ce matin. Et que comme Habacuc qui est passé par toutes les montagnes russes, Seigneur mon Dieu, tu nous accordes de pouvoir terminer en louange et en adoration. Alléluia. Et reconnaître que tu nous as donné les pieds, les mains et tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter les montagnes de nos vies parce que Christ est mort pour nous à la croix, qu'il est déjà passé par là, qu'il a déjà choisi de sauter dans le vide par amour pour nous, parce qu'il a déjà choisi de vivre toutes les angoisses pour nous, parce qu'il est déjà passé par là avant nous à la croix pour que nous soyons sauvés. Le juste vivra par sa foi. Oui, Seigneur, tu nous accordes de pouvoir avancer. Alors viens. Et touche-nous de façon toute particulière en ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.